Émission spéciale. Immobilier d'entreprise, bilan et perspective, la résilience pour garder le cap.
De retour sur le plateau de cette émission spéciale dédiée à l'immobilier d'entreprise sur le territoire d'EPAMARNE-DEPAFRANCE. Alors, on a fait le bilan de cette année 2020 avec Sophie Rosen qui nous a présenté cette étude menée par JLL pour EPAMARNE-DEPAFRANCE. On va maintenant se diriger un peu plus sur le terrain. On va parler de choses un peu plus concrète, un peu plus réelle, avec Laurent Girometti, le directeur général d'EPAMARNE-DEPAFRANCE, et Christophe Mauche, directeur du développement EPAMARNE-DEPAFRANCE. Et nous avons été rejoints sur le plateau par deux personnes. D'abord, Charles-Antoine Corr, bonjour.
Bonjour Jeanne.
Vous êtes le directeur Île-de-France pour le Gendre Immobilier. En face de vous, on a été également rejoint par Ronan Leland. Bonjour Ronan.
Bonjour Johanna.
Vous êtes vous président du directoire d'Argan, Argan dont on a déjà pas mal parlé en première partie. On en reparlera. J'aimerais également saluer Stéphane Salini qui est en ligne avec nous. Bonjour Stéphane. Stéphane Salini, est-ce que vous nous entendez ?
Je vous entends très bien.
Parfait, bonjour. Vous êtes le président du groupe Salini qui porte votre nom. Alors avant d'attaquer dans le vif du sujet qu'on a déjà un peu développé, messieurs, je vais vous demander de nous présenter en quelques mots ces trois entreprises qu'on connaît un petit peu sur Radio Immo, mais qu'on va quand même rappeler. D'abord Charles-Antoine Corr, le Gendre Immobilier.
Alors, le groupe Legendre, c'est un groupe familial, intégré, structuré autour de trois métiers, la construction, mais aussi l'immobilier et l'énergie. On est sur un groupe qui fait 2100 personnes sur l'exercice 2020 pour un chiffre d'affaires de 630 millions de chiffre d'affaires consolidés. Sur la partie immobilier, sur la part des 630 millions, on est sur un chiffre d'affaires de 190 millions. Et je dirais pour l'implantation du groupe sur le territoire EPAMARNE-DEPAFRANCE, c'est à peu près une dizaine d'opérations pour 45 000 m² de bureaux, 400 chambres d'hôtel et 800 logements.
On est déjà dans le dynamisme du territoire avec vous, Charles-Antoine. Ronan, quelques mots sur Argan. On a cru comprendre qu'on parlait logistique.
Je vous confirme. Donc, Argan est la première foncière française spécialisée en entrepôt logistique. Donc, comme le Gendre, c'est une société familiale. Elle est cotée sur Euronext depuis 2007, Euronext Paris. Donc, le fondateur, c'est Jean-Claude Leland, donc c'est mon père, qui reste le principal actionnaire avec sa famille. Moi-même, je suis le président du directoire et on est entouré d'une équipe d'une trentaine de personnes, une trentaine de collaborateurs qui sont tous experts dans leur domaine. Donc, quelques chiffres. Aujourd'hui, donc, étant parti d'une feuille blanche en 2000, aujourd'hui, Argan, c'est 90 entrepôts, donc qui totalisent 3 millions de mètres carrés répartis sur la France entière. Notre patrimoine est valorisé à hauteur de 3 milliards et il génère 150 millions de loyers annuels.
Voilà. Sur le territoire, EPAMARNE-DEPAFRANCE, Argan ?
Alors, plus précisément sur le territoire EPAFRANCE, on est particulièrement implanté. Il faut savoir qu'on est très attaché à ce territoire parce que c'est à Croissy-Beaubourg que Argan a fait ses premières opérations en 2000. Et aujourd'hui, on a environ 200 000 m² d'entrepôts logistiques à travers 9 sites répartis sur le territoire.
On sent l'attachement au territoire où, du coup, vous devez vous sentir bien. On en reparlera, même si ça semble un peu évident, hein, puisque vous y restez. Stéphane Salini, quelques mots sur le groupe Salini ?
Une autre entreprise à taille humaine et totalement tournée vers ses clients. Salini, c'est 50 ans d'histoire. C'est plus de 200 collaborateurs et c'est 80 millions de chiffre d'affaires. Et un attachement particulier au territoire EPAMARNE-DEPAFRANCE, puisqu'on a construit ces 20 dernières années plus de 30 opérations. Et dans les 5-6 prochaines années, une vingtaine d'opérations sont déjà programmées. Deux métiers, la construction, donc du clé en main, de la promotion, du parc d'activité. Et un deuxième métier qui est le service, donc la maintenance, l'entretien des bâtiments. Une structure familiale à taille humaine et dont l'actionnariat est totalement détenu par Philippe, mon frère, et moi-même qui co-dirigeons ce groupe familial.
Merci Stéphane. Quelques mots sur votre action sur le territoire EPAMARNE-DEPAFRANCE ?
Ça a été une année difficile, mais ça a été une année difficile pour la France, ça a été une année difficile pour les Français, ça a été une année difficile pour les activités qui, malheureusement, ont dû fermer. Il a fallu s'adapter, mais vous avez autour de vous des entrepreneurs et notre métier, c'est de s'adapter, d'être agile, d'avoir une certaine résilience. C'est ce que nous avons fait au cours de l'année avec plusieurs défis. Le premier défi, ça a été de ne pas mettre en péril nos collaborateurs. Le deuxième, c'est de faire en sorte de ne pas stopper notre activité, nos activités, c'est ce que nous avons réussi, difficilement pendant le premier confinement, puisqu'on était dans l'incertitude. Mais malgré ça, ça a été aussi un accélérateur de la demande de nos clients, des chefs d'entreprise qui souhaitent s'implanter sur le territoire des Pamarnes, puisqu'ils sont maintenant plus ouverts sur une démarche environnementale éco-responsable et sur la qualité des lieux de travail pour leurs salariés. Et je tiens à saluer le travail des Pamarnes, puisqu'ils nous ont poussés ces dernières années pour être de plus en plus éco-responsables, d'avoir une démarche environnementale. Ça a grincé un peu les dents de la part des entreprises, mais aussi de nos clients, et force est de constater qu'ils avaient là aussi pris un peu d'avance. Et aujourd'hui, on est totalement dans cette démarche. Et le groupe Salini, du coup, a commencé à construire l'année dernière, et ça va se poursuivre jusqu'en 2024, deux parcs d'activités éco-responsables avec des espaces de travail de grande qualité. C'est 25 bâtiments de 700 m² à 1500 m² avec un panel de services, des casiers connectés, des jardins partagés pour que les gens puissent aussi faire leur potager s'ils le souhaitent. Entre leurs pauses, des lampadaires photovoltaïques, des cuves de récupération des eaux, la gestion technique des bâtiments pour faire en sorte de maîtriser les consommables. Bref, tout un tas de panels pour se projeter sur ce qui est maintenant irréversible, le fait d'avoir des bâtiments qui correspondent aux souhaits d'une part des entrepreneurs, de leurs salariés, mais également des habitants aux alentours. Il n'y a pas d'un côté l'industriel, l'activité de l'autre côté des habitants, tout ça ne fait plus qu'un, et c'est la grande force, je pense, du territoire des Pamarnes.
Merci Stéphane. Puisque vous abordez le sujet, on va poursuivre sur ce volet écologique. On sait qu'on est sorti de cette crise sanitaire avec des Français qui sont de plus en plus demandeurs, qui sont de plus en plus attachés à tous ces projets écologiques. Et c'est sans doute, Laurent Girometti, l'une des clés du succès des Pamarnes et Pas France pour avoir survécu finalement à cette crise.
C'est un sujet sur lequel Pamarnes et Pas France s'est positionné depuis déjà plusieurs années. En effet, le virage en a été pris à la fin des années 2000, début des années 2010 dans un premier temps, et encore accentué au fil des ans. Pamarnes est notamment un pionnier sur les sujets d'éco-construction, construction bois, utilisation d'éco-matériaux. Alors c'est un sujet qui a, dans un premier temps, été pour ainsi dire réservé au résidentiel. Il faut savoir que Pamarnes et Pas France, l'ensemble, c'est l'aménageur qui finalement représente le plus gros volume de construction bois, par exemple, en France. Donc ça fait plusieurs années que patiemment, régulièrement, on construit cet aspect-là, en le travaillant là aussi avec les promoteurs et en ayant pour but que ça essaime, hein, et que l'éco-construction puisse se développer. C'est vrai que sur les aspects, notamment de locaux d'activité ou logistique, ce point-là n'a pas démarré aussi vite et aussi fort. Il y a encore quelques années de ça, Stéphane Salini l'illustrait bien à l'instant, le premier réflexe, c'était de dire ça va être compliqué. Les clients ont une attente très forte sur le prix. Attention, leur préoccupation première, quelle est-elle ? On constate que ça bouge et on a la satisfaction de constater que dans les opérations de cette année notamment, on commence à avoir de la construction bois dans les locaux d'activité. Le groupe Salini l'opère. Les opérations d'Argan contiennent des éléments de production locale, d'énergie, d'utilisation locale. Et toutes ces choses, je dirais maintenant à un rythme assez rapide, sont en train de s'intégrer à la fois dans l'offre que proposent les opérateurs, mais aussi dans la demande des clients. Donc ça, c'est un signal extrêmement positif. Et au-delà de l'éco-construction, c'est vrai que nous, on veille dans nos aménagements à être vraiment le plus respectueux possible des qualités du sol, du circuit de l'eau, des questions de biodiversité. La réglementation a beaucoup évolué, elle y contraint, mais indépendamment de cette contrainte, ce sont de réels sujets de préoccupation qu'on intègre dans nos opérations, Le but, c'est vraiment d'arriver à concilier le mieux possible le développement et le respect de l'environnement.
Et l'un des exemples de ça qu'on a ce matin, c'est celui d'Argan, qui a fait, je crois, un entrepôt neutre en carbone, c'est-à-dire qu'il consomme autant de carbone qu'il en fabrique.
C'est tout à fait ça. Donc chez Argan, le développement durable est quelque chose de très important. Et le plan climat d'Argan traduit notre volonté de construire des entrepôts plus responsables et vertueux pour l'environnement, car on est tout à fait conscient de leur impact. Alors on s'appuie pour cela sur des certifications durables, telles que les labels BRIM, HQE ou Biodiversity. Et concrètement, on essaye de réduire leur impact sur l'environnement et de préserver les ressources. Alors, sur le territoire de l'EPA, donc à Croissy-Beaubourg, on a réalisé notre entrepôt pilote à carbone neutre. Donc effectivement, c'est un projet qui est très vertueux parce qu'on s'est implanté volontairement sur un site ancien. Alors, ce n'était pas une friche industrielle, puisque c'est un site que l'on a acquis en 2000. C'était un site Kodak qui avait eu une première vie. En 2000, on l'a réhabilité. Donc on a conservé les parties qui méritaient d'être conservées. Et puis on a reconstruit à neuf donc des extensions. Donc ça, c'était en 2000. Et là, on a profité du départ du locataire pour tout remettre à plat. Et là, pour le coup, pour démolir la partie la plus ancienne d'origine, donc environ 7000 m², pour reconstruire une cellule neuve et réhabiliter les parties qui a été elle-même construite en 2000. Voilà. Et donc concrètement, on a tout simplement supprimé le chauffage gaz et donc on a mis en place des pompes à chaleur en toiture, des pompes à chaleur électriques. Hein, il faut savoir effectivement que un kilowattheure gaz consommé donc émet 300 grammes de carbone, CO2, alors qu'un kilowattheure électrique n'en émet que 60, donc 5 fois moins de CO2. Donc à la base, nous avons supprimé le chauffage gaz et mis des pompes à chaleur électrique. Et pour alimenter, donc bien évidemment, nous avons mis des LED à la place des iodures à sodium d'origine en matière d'éclairage. Et donc pour alimenter le site, nous avons installé une centrale photovoltaïque en toiture, si bien que on arrive quasiment à zéro en émissions de CO2 et les quelques 1 ou 2 tonnes résiduelles d'émissions de CO2 sont compensées par une soixantaine d'arbres adultes, si bien que le bilan carbone est zéro.
L'écologie, donc, comme l'une des clés du succès et de la résilience sur le territoire des PAMAN, des PA France. Je suppose qu'il y en a d'autres. Alors, je vais me tourner vers vous, Charles-Antoine Corr. Quelle a été l'une de vos clés pour vous adapter ces 12 derniers mois pour que l'activité se poursuive malgré tout ?
Alors, je pense que déjà la qualité du groupe intégré Legendre a été une clé, je dirais, de cette résilience, puisque le fait d'avoir pu, dès que les protocoles sanitaires étaient en capacité d'être activés, de redémarrer l'ensemble de nos chantiers, mais couplé aussi à des choix stratégiques pré-crise, notamment sur la digitalisation ou sur des stratégies d'innovation, sur la valeur d'usage, sur la recherche et développement en technologie, nous permettent finalement, je dirais, d'avoir une année 2020 à l'équilibre, mais aussi d'augurer cette année 2021 sous les meilleurs auspices en termes de performance. Pour rebondir un petit peu sur cette dimension environnementale des attentes des grands utilisateurs, je pense que cette attente environnementale, elle est à intégrer aussi dans une démarche plus globale sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Bien évidemment, aujourd'hui, un employeur doit proposer des espaces de travail qui sont en lien avec les résonances des préoccupations de ses collaborateurs, bien sûr des conceptions décarbonées, des performances énergétiques vertueuses, mais aussi de travailler sur cette valeur d'usage, sur les espaces de travail, pour que finalement on y retrouve l'intérêt d'un projet collectif d'entreprise et que le bureau soit un élément désirable pour que le projet collectif d'une entreprise soit vraiment partagé au niveau des collaborateurs. Et l'ensemble, je dirais, de nos opérations tournées vers cette valeur d'usage, sont une réponse à ce que le bureau sera demain. Le meilleur exemple, c'est finalement le bâtiment Osmose que nous avons livré pour le compte du Crédit Agricole Brie-Picardie en septembre 2020, qui est pour le Crédit Agricole Brie-Picardie une vraie réponse à l'implantation sur son territoire local, le repositionner sur la dynamique aussi économique de son territoire, de son marché, mais d'en faire aussi un espace qui permet de pérenniser ses collaborateurs, d'être un outil de recrutement et d'accompagner aussi cette vie dans l'entreprise par une multitude de services qui est là aussi une évolution du produit bureau dans l'avenir. Une crèche, des espaces de travail collaboratifs, une boutique coopérative, des éléments de terrasse agricole partagés pour que vraiment on ait un équilibre sur la vie au travail, la vie personnelle, dans une mixité fonctionnelle qui fait la caractéristique du territoire.
Christophe Mauch, je voudrais une réaction sur ce que vient de dire Charles-Antoine, qui finalement nous emmène gentiment vers la mixité des usages dont on parle beaucoup et qui aujourd'hui s'impose hein, pour rendre un territoire dynamique et attractif.
Tout à fait. Pourquoi le périmètre d'intervention des établissements publics fonctionne bien ? C'est parce qu'on a un territoire qui est extrêmement équilibré, avec un emploi pour un actif, un développement d'environ 2000 à 2500 logements chaque année, et également du développement économique sur des volumes importants. On parle entre 12 et 15 hectares de foncier d'activité chaque année, environ 25 à 30 000 m² de bureaux, et de l'hôtellerie et du commerce en accompagnement. Oui, je vais réagir sur ce que Charles-Antoine, tu viens de dire, parce qu'en plus, il y a un sujet qui nous touche, nous, tout particulièrement en ce moment, c'est que, Laurent en a parlé un petit peu tout à l'heure, on se repositionne aujourd'hui, notre site historique est à Noisiel, au cœur d'un parc paysager de 3,5 hectares. Alors, c'est très sympa, mais en même temps, on est à 1,5 km d'une gare, on a une rupture de charge, c'est pas évident pour les collaborateurs lorsqu'ils viennent en transport en commun, c'est pas évident pour nos clients lorsqu'ils viennent nous voir, sauf s'ils sont véhiculés. Alors, on a un parking, mais pour venir en transport, c'est pas génial. Donc, effectivement, on a fait le choix de se repositionner au pied de la gare du Grand Paris à Noisy-Champs. Et je dirais que sur le sujet RSE, c'est un sujet aujourd'hui très important pour les utilisateurs. Et nous-mêmes, aujourd'hui, on travaille avec les collaborateurs pour offrir des espaces de travail qui soient qualitatifs et qui répondent bien évidemment aux usages, mais qui soient des lieux de vie agréables. On le voit aujourd'hui, période de pandémie, on vit quelque chose sans précédent, qui est difficile à vivre. Pour moi, l'entreprise, que ce soit des locaux d'activité ou que ce soit un site tertiaire, il est vecteur de lien social. Et clairement, on a besoin d'offrir des services et des surfaces de travail qualitatives. Donc typiquement, pour nous, ce sera 35% d'espaces de travail collaboratifs. On associe les collaborateurs depuis plus d'un an dans des démarches d'ateliers pour qu'ils puissent se projeter dans notre futur bâtiment, puisqu'on emménagera sur site en septembre 2022. Et si vous me permettez de garder la parole encore deux minutes, Johanna, je voudrais réagir à ce qu'a dit tout à l'heure Stéphane, sur le fait que ça grinçait un petit peu des dents lorsqu'on a poussé les utilisateurs économiques à aller avec nous sur le sujet environnemental, sur la construction décarbonée. Effectivement, Epamarne, sur le plan résidentiel, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est reconnu. On est premier donneur d'ordre public en construction décarbonée. C'est plus de 5500 logements engagés sur les 5 dernières années. Néanmoins, sur la partie économique, c'était pas gagné. C'était pas gagné. Quand on a commencé il y a quelques années à en parler, à pousser nos clients à aller sur cette thématique-là, et au final, aujourd'hui, on s'aperçoit, je vais pas paraphraser ce qu'ont dit nos invités, mais c'est quand même quelque chose qui se pratique de plus en plus. Et c'est vrai qu'on pousse sur la construction bois sur les locaux d'activité. C'était quelque chose qui se faisait pas du tout par le passé. Aujourd'hui, ça commence à se faire. Stéphane en a parlé sur ces deux opérations, que ce soit à Collégien ou à Chanteloup-en-Brie. C'est plus de 20 bâtiments qui seront réalisés sur cette composante-là. On va très loin aussi en termes de rétention d'eau à la parcelle, c'est un sujet important à traiter sur les développements des zones d'activité. Ça se faisait pas forcément par le passé, ça se faisait au niveau des ZAC, mais ça se faisait pas forcément avec nos clients. Aujourd'hui, nos clients, ils sont intégrés dans cette démarche-là. Et juste, après je rendrai la parole, mais on a une zone d'activité aujourd'hui qui est la ZAC de la Miro-Croatie, que l'on pousse en termes de ZAC à biodiversité augmentée, avec je dirais des contraintes qui peuvent être perçues comme telles. Mais in fine, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une ZAC qu'on a mis en commercialisation il y a 6 mois. Et au moment où on se parle, alors qu'on vit quand même une période qui est quand même pas facile, on a aujourd'hui plus de fonciers disponibles immédiatement en commercialisation. Pourquoi ? Parce qu'ils sont soit commercialisés. On n'a jamais fait un premier trimestre aussi dynamique en termes de vente foncière. Donc ça, pour le coup, je me permets de le souligner vu la saison. Et aujourd'hui, tous les fonciers restants sont à l'étude avec des prospects. Alors bien évidemment, pour nos auditeurs, je suis convaincu que l'ensemble des études de faisabilité ne vont pas prospérer et on va se retrouver avec des fonciers disponibles dans quelques mois. Mais néanmoins, c'est très parlant. En moins de 6 mois, une ZAC mise sur le marché qui est complètement soit commercialisée, soit en cours de commercialisation, je dirais que c'est presque du jamais vu ces dernières années. Et pourtant, cette ZAC, on va loin en termes d'ambition environnementale.
On va continuer à parler d'ambition hein, dans quelques instants, puisque je voudrais vous emmener, messieurs, sur les perspectives hein, pour ce marché de l'immobilier tertiaire sur le territoire des PAMA et des PAFrance. Avant, je voudrais me tourner vers Ronan, qui est un peu notre référent logistique ce matin. Ces 12 derniers mois, on a connu une explosion sans précédent du e-commerce. Les gens ne pouvaient plus sortir, alors ils ont commandé. Il y a eu une grosse demande au niveau du stockage, notamment. Est-ce que vous l'avez ressenti? Et puis, surtout, je crois qu'il y a eu également un besoin de stocker de nouveaux produits qui devenaient nécessaires. Je pense aux masques, je pense aujourd'hui aux vaccins. Et pour ça, Marne-la-Vallée s'est trouvé un territoire privilégié.
Oui, tout à fait. Et donc, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Christophe et puis Sophie tout à l'heure pour témoigner de l'exercice 2020, donc sur les 12 derniers mois écoulés pour Argan, pour dire que, effectivement, donc en collaboration étroite avec Laurent Girometti et Christophe Mauge, Argan a été en capacité à renforcer son offre locative sur le territoire de l'EPA à hauteur de 60 000 m2. Donc là, à travers des clés en main locatives ou même du blanc, puisque nous avons décidé donc avec l'EPA de lancer une opération en blanc sur Ceris. Et donc, on s'est retrouvé début 2020 à commercialiser, hein, donc avec l'enjeu, le challenge de commercialiser 60 000 m2 de neuf ou de réhabilitation lourde, à savoir le projet de Croissy-Beaubourg, ainsi que, Sophie en a parlé, un entrepôt vacant à Ferrières de 30 000 m2. Voilà, donc ça, c'était la photo, le challenge début 2020. Donc, il s'est passé ce que tout le monde sait, donc la crise sanitaire. Et résultat des courses, 12 mois après, on a obtenu un énorme succès, puisque en 12 mois, la totalité des 60 000 m2 ont été signés et nous avons loué à Locapost l'entrepôt de Ferrières, donc où, effectivement, Locapost a stocké un contrat d'État, donc toutes les EPI de l'État, à savoir les masques, les gants, les blouses, etc. Et sur le territoire, nous avons également donc signé une extension donc à Chanteloup-en-Brie avec Arvato Healthcare. Arvato Healthcare donc est un acteur majeur concernant les laboratoires pharmaceutiques et qui stocke à ce titre les vaccins Pfizer et Moderna dans le site de Chanteloup-en-Brie. Voilà. Alors donc, c'est peut-être pas ça qui a déclenché l'extension de 6 000 m2, mais néanmoins, ça y a participé. Et puis, on a également, on a constaté, on peut témoigner que le secteur médical ou plus largement le secteur de la santé a été très présent en 2020 à travers également un locataire qui s'appelle Intersurgical qui a signé pour 6 000 m2 à Croissy-Beaubourg. Voilà, donc je vous confirme que le secteur médical a effectivement, et la santé plus généralement, a boosté le business. Et le e-commerce, bien évidemment, puisque chacun sait que ça a été un accélérateur de la part du e-commerce dans la consommation globale. Donc le territoire n'y a pas échappé. Et je peux donner l'illustration de Decathlon qui est présent donc chez nous à Ferrières. Alors donc là, sur le coup, on est sur un entrepôt qui est multicanal. C'est un entrepôt qui dessert à la fois les magasins physiques et qui fait également du B2C. Voilà. Et donc, pendant que les magasins étaient fermés, bien évidemment, la part du B2C a augmenté. Et ça a déclenché un besoin supplémentaire pour Decathlon. Et donc, on a signé une extension de 6 000 m2 d'un entrepôt qui faisait déjà 36 000. Donc là, maintenant, on est sur un format de 40 000. Et le côté positif également, c'est que Decathlon s'est réengagé sur la durée.
Merci Ronan. On va utiliser les quelques minutes qui nous restent pour se lancer sur les perspectives. Alors demain, que faut-il attendre? Que faut-il espérer sur le territoire d'EPA Marne, d'EPA France? Et je voudrais poser la question à Stéphane Salini. Stéphane, alors, comment vous voyez les 12 prochains mois?
Je n'ai pas les chiffres du loto, mais je vais essayer de vous donner ma vision. C'est assez simple. C'est un territoire dynamique. Ça ne se décrète pas d'être dynamique, ça se construit. Et l'EPA Marne l'a construit depuis de nombreuses années. Et donc, on le voit aujourd'hui, un bon nombre de collaborateurs et d'entrepreneurs souhaitent venir s'implanter sur ce territoire. Et donc à nous, chefs d'entreprise, entrepreneurs, à s'adapter, à leur proposer des produits, de nouveaux produits qui correspondent complètement à l'ère du temps. C'est ce que nous faisons, nous, Salini Group, en 2020 jusqu'en 2024. Il y a deux parcs d'activité qui sont en train de sortir de terre, un collégien où 4 bâtiments sont déjà construits sur 8, et un autre à Chanteloup dont les autorisations sont en cours, totalement, et Christophe l'a dit, totalement en bois, charpente et structure en bois, des bâtiments de 700 à 1500 m2 avec tous les services qui vont autour, et notamment les toitures végétalisées, le fait d'avoir des bitumes blancs également sur la toiture pour éviter et minimiser l'absorption de calories, la gestion des eaux, Christophe l'a dit, des eaux pluviales pour privilégier l'infiltration, etc., etc. Encore une fois, cette démarche est nécessaire. Je le redis, Monsieur Girometti, Monsieur Mauge ont bien fait depuis quelques années de nous inciter fortement, durablement à investir sur le côté environnemental de nos bâtiments, parce que aujourd'hui c'est une demande qui est forte, et lorsque vous faites visiter des bâtiments, puisque le parc d'activité Square à Chanteloup et à Collégien est à la vente ou à la location, quand vous faites visiter deux bâtiments, un bâtiment éco-responsable en bois avec tous les services qui vont avec, et un autre bâtiment qui est, comment dirais-je, plus classique et plus standard, vraisemblablement et souvent, l'attention des entrepreneurs, c'est plutôt d'aller vers des parcs d'activités du futur, en tout cas qui correspondent mieux à ce qu'ils souhaitent donner comme image à leur entreprise. Donc on va continuer avec EPA Marne, avec EPA France, avec qui nous travaillons depuis une trentaine d'années, à essayer de répondre à cette demande, avec la particularité qui est celle du groupe Salini, c'est d'avoir cette disponibilité et ces échanges permanents avec les collectivités et avec nos clients. Mais autour de la table, vous avez des gens avec une très bonne réputation qui font de très bons boulots. Donc je crois que ce territoire, comment dire, je vais continuer à prospérer, puisqu'il est bien tenu et il sait où il va. Et on va essayer, nous, groupe Salini, de pouvoir accompagner l'EPA Marne et le territoire pour quelques années, et de bonnes années, je pense.
Merci Stéphane Salini. Alors, un territoire dynamique, porté par son engagement environnemental, un territoire bien tenu, que nous a dit Stéphane Salini. On va laisser la conclusion à Laurent Girometti.
Merci Johanna. Écoutez, ce matin, je trouve qu'on a des partenaires qui font plaisir à entendre. On a des entreprises françaises, familiales, issues du terrain, qui sont dans l'économie réelle et qui créent de la valeur et des emplois, ce qui est quand même un des buts principaux qu'on peut avoir sur un territoire comme le nôtre. Dans la période actuelle, on a besoin de ce type d'initiative, tout en étant vigilant sur les enjeux environnementaux, et ça, on les y a poussés, comme ça a été souligné. Je pense que c'est une clé pour demain. C'est-à-dire qu'on n'est pas, vous voyez, on n'est pas dans le négativisme, on est au contraire, on sait que la situation est difficile, mais il y a beaucoup d'atouts pour pouvoir rebondir, développer malgré tout, et ces entreprises vraiment font partie, finalement, des clés pour y arriver, en partenariat avec nous. Donc je pense qu'on a eu là un bon résumé, finalement, de la façon dont on veut travailler. Et en se disant que cette conciliation enjeux économiques, enjeux environnementaux, c'est ce qui fait la valeur des actifs et du territoire pour demain. C'est ce qui fait les emplois. C'est ce qu'il faut, tout simplement.
Laurent Girometti, directeur général d'EPA Marne, EPA France, merci beaucoup pour cette conclusion pleine d'optimisme. Et puis merci à tous nos invités pour leur optimisme ce matin. On a montré que malgré la crise sanitaire, quand un territoire sait être dynamique et attrayant, eh bien tout se passe bien. On va refaire un dernier tour de table pour vous remercier. D'abord, on va remercier Sophie Rosen, qui était avec nous en première partie d'émission, qui est directeur du service recherche chez JLL. On remercie également Stéphane Salini, qui était avec nous en ligne. Il est président du groupe Salini. Merci à vous Christophe Mauge, directeur du développement EPA Marne, EPA France, Charles-Antoine Corr, directeur Île-de-France, Le Gendre Immobilier, et Ronan Leland, le président du directoire d'Argan. Un grand merci à tous. Cette émission est désormais disponible en podcast sur tous vos agrégateurs habituels, alors n'hésitez pas à aller la réécouter. Je vous souhaite une très bonne journée à notre écoute.
Émission spéciale Immobilier d'entreprise, bilan et perspective. La résilience pour garder le cap. Une émission en partenariat avec EPA Marne, EPA France, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.